Retrouvez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous dans un instant, comme tous les matins. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vous n'hésitez pas, toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Vous pouvez également poster vos questions sur la page Facebook de l'émission en nous envoyant, s'il vous plaît, en message privé évidemment, votre numéro de téléphone, car le principe de cette émission, vous le savez, c'est de vous avoir avec nous en direct sur l'antenne de RFI. Et puis dans 30 minutes, nous lancerons un débat. Nous parlerons tout à l'heure de la polémique après l'élection d'un nouveau président à la Cour constitutionnelle en Guinée. Mohamed Lamine Bangoura a été élu à la tête de la plus haute juridiction en remplacement de Khalifa Sall. On en a beaucoup parlé sur l'antenne de RFI. Khalifa Sall destitué le mois dernier par ses propres collaborateurs, une destitution jugée illégale par de nombreux juristes. Et du coup, eh bien, l'opposition et une partie de la société civile voient dans cette manœuvre une volonté politique pour modifier la Constitution et permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Nous sommes, je vous le rappelle, à 2 ans du scrutin présidentiel. Alors dites-nous si cette polémique est véritablement justifiée, d'autant que jusqu'à présent, le chef de l'État n'a jamais fait part de ses intentions. 33 9 693 693 70. Mais d'abord donc, vos questions. Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI, est à mes côtés. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Nous avons reçu plusieurs fois cette même question concernant Cristiano Ronaldo qui est accusé de viol par une femme américaine. On a donc choisi un auditeur parmi tous ceux qui nous ont contactés. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Niamey au Niger. Nous vous écoutons.
Bonjour André Valente. Bonjour à tous les auteurs de RFI. Bien, Cristiano Ronaldo accusé de viol par une américaine. Une agression qui se serait déroulée à Las Vegas en 2009. Ma question, quel impact pourrait avoir cette affaire sur la carrière du joueur?
Alors, l'impact sur la carrière du joueur dans un premier temps, Alejandro Valente, je sais que Mamadou a d'autres questions. Rappelons que Ronaldo, sur son compte Twitter, a immédiatement réagi en démentant vigoureusement ses accusations. Le viol est un crime abominable, a-t-il dit, qui va à l'encontre de tout ce que je suis et de tout ce que je crois.
Oui, il a réagi de cette façon. C'était peut-être une réaction un peu hâtive et maladroite parce qu'il a parlé des fake news. Or, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ni quelle sera la fin judiciaire de cette affaire, mais on constate quand même qu'il y a de nombreux éléments matériels qui montrent qu'il y a eu au moins quelque chose de trouble entre ces deux personnes, Catherine Majorga et Cristiano Ronaldo, en juin 2009 à Las Vegas.
Quelque chose de trouble, d'autant que cette femme accuse les avocats de Cristiano Ronaldo de l'avoir fait signer sous pression un accord financier de près de 400 000 $ pour obtenir son silence. Et pas plus tard qu'hier, le quotidien allemand Der Spiegel a publié ce fameux document qui est embarrassant finalement pour Ronaldo.
Effectivement, il faut d'abord préciser que à l'origine de cette affaire, c'est justement la fuite des documents connus sous le nom de Football Leaks début 2017. Der Spiegel remarque qu'il y a quelques documents qui attirent son attention, et notamment une lettre de Catherine Majorga à Cristiano Ronaldo, très émouvante, paraît-il. Donc, à partir de là, il commence à essayer de démêler ou de trouver le fond de l'affaire. Cette femme, pendant de longs mois, va refuser de s'exprimer devant le journaliste. Elle ne veut rien entendre parler de cette affaire. Et puis, elle change d'avocat et du coup, la situation évolue, car les avocats lui disent que ces documents qu'elle a signés peut ne pas être valable dans la mesure où il a été signé sous pression. Et effectivement, d'après les témoignages qu'on a pu déceler, elle affirme qu'un détective avait été mandaté par l'équipe d'avocats de Cristiano Ronaldo afin de fouiller dans sa vie et donc la menacer de faire toutes sortes de révélations si elle ne signait pas ses documents. Bon, est-ce que c'était vrai ou pas vrai, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est une affaire sérieuse et embarrassante pour Cristiano Ronaldo.
Ouais, pour l'instant, il est présumé innocent, c'est important de le rappeler. Y a-t-il déjà des conséquences sur sa carrière?
Alors, la première conséquence qu'on peut redouter, c'est que les sponsors se retirent, rompent le contrat qui les lie, dans la mesure où ils estimeraient qu'il n'a pas respecté, disons, l'exemplarité qui peut être requise dans ce type de contrat. On sait que Nike et d'autres sponsors se sont déjà inquiétés des conséquences de cette affaire, donc c'est une première alerte. Si l'affaire reste là, probablement ça n'ira pas plus loin, mais si la justice américaine décide, par exemple, de convoquer Cristiano Ronaldo, ne serait-ce que comme témoin, afin d'entendre sa version, voire de le mettre en examen, ça pourrait évidemment avoir des conséquences bien plus graves.
Oui, certains sponsors prennent leur distance. Vous aviez, Mamadou, comme deuxième question, justement, la réaction des partenaires commerciaux de Ronaldo. Mamadou ?
Oui. Donc, suite à cette affaire, j'ai appris que la Juventus a perdu 10% à la bourse après les révélations. Comment les sponsors réagissent à une telle accusation?
Alors, les sponsors, on voit bien que certains prennent déjà leur distance. C'est le cas de Nike. On peut également citer l'éditeur du jeu vidéo FIFA, puisque Ronaldo, sa vignette a disparu du jeu.
Absolument, oui, oui. Donc, on sent que déjà, du côté des États-Unis, il y a une vraie inquiétude. Et du côté de la Juventus, bon, notre ami précise qu'il y a eu une perte de la valeur en bourse de la Juventus de Turin. On ne sait pas si on peut l'attribuer exclusivement à l'affaire Cristiano Ronaldo. Mais c'est sûr que si l'affaire continue, voire si elle s'aggrave, puisqu'on évoque maintenant la possibilité que d'autres femmes accusent également Cristiano Ronaldo, là ça pourrait devenir beaucoup plus compliqué pour la Juventus de garder sa confiance aux joueurs.
La Juventus qui a dépensé, rappelons-le, cet été plus de 100 millions d'euros pour le recruter, donc elle fait pour l'instant le maximum pour essayer de préserver son joueur.
Absolument, mais rappelons aussi que Cristiano Ronaldo a eu maille à partir avec la justice espagnole récemment, donc il avait quitté l'Espagne justement à la suite de ses problèmes, donc c'est vrai que lui qui a toujours pris un grand soin de montrer une image très positive est aujourd'hui dans des moments compliqués. Espérons en tout cas que cette affaire puisse être éclaircie et que,
à suivre donc.
Et qu'on revienne au football.
Merci Alejandro Valente, bonne journée à Mamadou qui nous appelait de Niamey. Il est déjà 10h18 à Paris, vous nous appelez vos questions 33 9 693 693 70. Gabriel nous a contacté de Dubaï et Gabriel est revenu sur cette affaire de Redouane Faïd. Rappelez-vous, Redouane Faïd qui a réussi pour la deuxième fois en 5 ans à s'échapper de sa prison. C'était il y a 3 mois. Il y a tout juste une semaine, il a été retrouvé, arrêté. Et Gabriel nous demandait, sachant qu'il s'est déjà évadé par le passé à plusieurs reprises, sera-t-il soumis désormais à des mesures spécifiques? Franck Alexandre, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous suivez les affaires judiciaires pour RFI. On imagine que Redouane Faïd est désormais dans une prison ultra sécurisée.
Oui, Vendin-le-Vieil, dans le Nord. Une véritable forteresse, Juan, hein. Dans cette centrale, Redouane Faïd fait l'objet de mesures de sécurité particulières, vous vous en doutez. Placé à l'isolement, il est accompagné de 4 agents vêtus de tenue par coup pour chacun de ses déplacements. Il est fouillé avant et après chaque sortie de cellule. Une vitre installée au parloir lui empêche tout contact physique avec ses visiteurs, y compris son avocat Raphaël Chiche. Et les mesures de sécurité sont appliquées. Ce sont les mêmes que celles qui sont appliquées à Salah Abdeslam. Vous savez, l'unique survivant des commandos terroristes du 13 novembre, vous l'avez compris. Tout est mis en place pour empêcher une nouvelle évasion.
Donc il fait partie aujourd'hui des détenus les plus surveillés de France.
Oui, au même titre que Salah Abdeslam, qui avant lui était le détenu le plus surveillé de France. Donc des mesures extrêmement strictes avec vidéosurveillance, isolement total. Vendin-le-Vieil, Redouane Faïd connaît bien. Il y avait déjà séjourné 1 mois, c'était en 2017 à l'occasion de son procès pour une précédente évasion, vous l'avez évoqué, celle de la prison de Sequedin en avril 2013 à l'aide d'explosifs. Une évasion plus tard, celle de la prison du Réau en hélicoptère. Cette fois, le braqueur Faïd sait qu'il restera un détenu particulièrement surveillé. Il doit purger une peine de 25 ans de réclusion, je le rappelle, une éternité. Il passera donc sa vie derrière les barreaux.
Et on précise, puisqu'on parle de mesures de sécurité, que la ministre de la Justice a demandé à Google de flouter les vues aériennes des prisons, et notamment celle de Vendin-le-Vieil, où Redouane Faïd est écroué, car aussi incroyable que cela puisse paraître, et bien sur Google Maps, on peut encore actuellement avoir des vues aériennes de certaines prisons françaises.
Et la difficulté, c'est que les images anciennes restent Internet a beaucoup de mémoire, donc on peut flouter aujourd'hui les images qui ont été prises en 2018. En revanche, celles qui ont été prises en 2012, 2014, 2015 resteront en mémoire et on pourra les retrouver sur Internet. Donc on verra toujours ces prisons. Alors elles évoluent, ces prisons, on y ajoute des systèmes de sécurité. Mais en tout cas, les vieilles images resteront disponibles. Donc c'est une histoire qui va durer encore un peu.
À suivre. Merci beaucoup Franck-Alexandre d'être venu répondre à Gabriel qui nous écoute à Dubaï. 33 9 693 693 70. On accueille Charles Arnaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Boaké en Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons.
Oui, oui. La semaine dernière, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Canada sont condamnés pour accuser la Russie d'être derrière 1 milliard d'attaques informatiques ces derniers mois. Alors, j'aimerais savoir s'il s'agissait d'une cyberattaque russe.
Alors, vous savez, Charles Arnaud, le réseau téléphone est particulièrement mauvais. Êtes-vous à l'extérieur? Êtes-vous dehors?
Oui, je suis à l'extérieur.
Et vous êtes à l'extérieur, parce qu'on a du mal vraiment à vous comprendre. Heureusement que hors antenne, on a pu prendre en note votre question, mais le réseau est particulièrement mauvais. Vous faites référence donc à ces accusations formulées il y a quelques jours par les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, qui affirment que la Russie est l'auteur d'un nombre important de cyberattaques. Et vous vouliez savoir de quels éléments disposent ces pays pour formuler de telles accusations.
Oui, effectivement.
C'est bien ça. Bonjour Julien Ossetti.
Bonjour.
Chercheur à l'Institut français des relations internationales. D'abord, le spécialiste de la Russie et des questions de cybersécurité que vous êtes, est-il surpris par ces accusations? Puisqu'on parle effectivement des États-Unis, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, cités par notre auditeur, mais le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'OTAN et également l'Union européenne accusent la Russie de mener de telles attaques informatiques.
Exactement. Et ce qui surprend, c'est en fait la posture, pour une fois, très coordonnée, très très unifiée de ces pays occidentaux. Parce que jusqu'à présent, c'était essentiellement les États-Unis et la Grande-Bretagne qui étaient les plus en pointe dans cette critique des manœuvres et des cyberattaques russes. Et la différence aujourd'hui, en octobre 2018, c'est que vous avez une bonne partie des pays européens qui sont dans une posture beaucoup plus affirmée, voire même agressive, envers ces cyberattaques russes. Ouais. Donc ce qui surprend, c'est vraiment cette coordination.
Mais concrètement, Julien Ossetti, de quelles attaques parle-t-on?
Alors, on parle d'un certain nombre d'attaques et également ont été mis dans le même sac un certain nombre de tentatives russes d'espionnage envers certaines institutions occidentales. La plus médiatisée a été celle ayant visé l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques aux Pays-Bas. Oui. Et les Pays-Bas ont été justement assez en pointe dans cette histoire pour révéler avec Londres l'ampleur et de toutes ces manœuvres d'influence et de piratage entreprises par la Russie. Et dans chacune de ces entreprises ressort l'implication du GRU, donc le renseignement militaire russe, qui aurait été à la manœuvre à la fois dans l'espionnage traditionnel et dans l'entreprise de cyberattaque.
Ouais. Enfin, tous les experts le disent, et vous allez peut-être, vous, exceptionnellement, me contredire, les experts disent qu'il est très compliqué de déterminer qui est à l'origine d'une attaque informatique. Alors, c'est peut-être trop facile d'accuser les Russes.
Alors, c'est effectivement assez complexe. Sur un plan technique, l'attribution d'une cyberattaque, c'est un processus qui est éminemment complexe, qui peut prendre des années. Qui peut mobiliser aussi des ressources humaines très importantes. Donc au fond, très très peu aujourd'hui de services de renseignement et d'autorités ont les moyens de remonter à l'origine de cyberattaques d'ampleur. Je pense qu'il faut avant tout situer cette attribution à la Russie sous un angle plus politique et diplomatique. On se situe à un peu plus de 6 mois des élections européennes. D'ailleurs, l'Union européenne, par la voix de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, a réagi très vivement à ces cyberattaques russes. Et plus globalement, il s'agit de décourager les Russes d'entreprendre ce type de manœuvre que visiblement ils affectionnent, si on en croit les révélations.
Merci beaucoup Julien Ossetti d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre donc à Charles Arnaud qui nous écoute à Boaké en Côte d'Ivoire. Il nous reste 5 minutes, un dernier auditeur, une dernière question ce matin. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Conakry, nous vous écoutons.
Bien, Juan, le 5 de ce mois, l'ancien président sud-coréen Lim Jung-bak a été condamné à 15 ans de prison pour corruption et détournement de fonds. J'ai appris qu'avant lui, trois de ses prédécesseurs avaient été condamnés pour des faits similaires. Ma première question est la suivante. Pourquoi est-ce que les anciens présidents, les présidents, je veux dire, sud-coréens, sont souvent au cœur des scandales de corruption dans l'exercice de leurs fonctions?
Ouais, vous avez raison, c'est vrai qu'une fois partis du pouvoir, les ex-présidents sud-coréens se retrouvent souvent en prison, et d'ailleurs depuis le début de l'année, il s'agit du deuxième ex-chef de l'État à être condamné pour corruption. Bonjour Juliette Morillo.
Bonjour.
Historienne, spécialiste de la péninsule coréenne, y aurait-il une spécificité, une particularité sud-coréenne?
Eh bien, en effet, en Corée, il apparaît que la corruption est véritablement inscrite presque dans le fonctionnement des choses, et surtout ces rapports extrêmement étroits entre les grands conglomérats Hyundai, Samsung et les présidents. Alors, ce qui est absolument terrible, vous l'avez souligné, c'est que les quatre présidents sud-coréens encore en vie actuelle ont tous été condamnés à un moment ou un autre. Et il y en a même un, Chun Do-hwan, qui a été condamné à mort. Bon, finalement, il a été gracié. Ce qui est encore plus terrible, c'est quand on regarde les autres présidents qui n'ont pas été condamnés, on voit qu'ils ont tous été éclaboussés par des scandales de corruption. Même le fameux Kim Tae-jong, qui a été au pouvoir entre 1998 et 2003, et qui était l'artisan du rapprochement, qui a été prix Nobel de la paix, n'a pas été lui-même condamné, mais ses deux fils ont été condamnés pour corruption. Un autre président, le prédécesseur de Im Young-bak, lui s'est suicidé pour soupçon de corruption. Et je dirais qu'il y a encore quelque chose de plus terrible aujourd'hui. C'est un petit fait divers qui est passé un petit peu inaperçu en France. En février dernier, vous avez Lee Jae-yong, qui est le patron de Samsung, qui a été libéré en appel, c'est-à-dire qu'il était condamné à de la prison pour corruption. Samsung, c'est l'énorme conglomérat. C'est ce scandale de corruption qui a fait tomber la présidente sud-coréenne. Eh bien, il a été reconnu coupable par la cour d'appel, mais il a été libéré. Et en Corée du Sud, c'est un scandale. Cela veut dire que la corruption, finalement, on peut s'en tirer, il n'y a pas de punition, c'est ancré dans la société et ça ne bouge pas.
Ouais. Et à chaque fois, on retrouve ces fameux conglomérats d'entreprises familiales. Vous citez Samsung, mais on peut citer les autres grandes marques sud-coréennes qui envahissent les marchés occidentaux. Alpha, vous aviez une dernière question?
Oui, Juan. Et quelle va être les conséquences de cette condamnation sur la vie politique sud-coréenne?
Ah, vous pensez, autrement dit, peut-on s'attendre à un changement dans les mœurs, Juliette Morillo?
Je l'ai évoqué il y a quelques minutes. C'est très évoquer un changement. Quand on voit le nouveau président actuel, Moon Jae-in, lui a été élu véritablement sur la promesse d'éradiquer, d'extirper la corruption du pays. Or, on s'aperçoit, je vous l'ai dit il y a quelques instants, que le président, que le patron de Samsung, lui-même reconnu coupable de corruption, finalement a été exempté de toute charge. Ça a été un scandale, et non seulement ça, il était aux côtés du président Moon Jae-in lors du fameux voyage dont on a parlé en Corée du Nord il y a 15 jours. Donc il faisait partie de ces grands patrons invités pour reconstruire l'avenir des deux pays. Donc on s'aperçoit que malgré les meilleures volontés que possède le président Moon Jae-in, qui a essayé notamment d'éliminer cette habitude coréenne de donner des cadeaux sans limite, et bien malgré ça, la corruption est malheureusement ancrée, et qu'il faudrait un bouleversement très très profond, un changement profond, une restructuration de la société pour s'en débarrasser.
Merci Juliette Morillo. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs votre dernier ouvrage, consacré cette fois à la Corée du Nord, Le monde de Kim Jong-un. C'est passionnant, ça se lit vraiment comme un polar, j'ai adoré Juliette Morillo. Et c'est publié aux éditions Robert Laffont. D'autres questions demain matin, d'ici là vous continuez à nous appeler 339 693 693 70, et vous nous appelez puisque nous vous donnerons la parole dans tout juste 10 minutes. On parlera du nouveau président de la Cour constitutionnelle en Guinée.